science-fiction, les films comme la trilogie de Matrix et celle de Terminator nous montrent un avenir de désolation, une planète anéantie dirigée par des machines. Mais est-ce qu'un tel avenir où la machine supplante l'homme est possible? Où en sont les robots construits dans les laboratoires d'aujourd'hui? Ont-ils vraiment cette intelligence artificielle évolutive? Racine vous invite à plonger au cœur de l'univers scientifique avec Dario Floreano, psychophysicien à l'EPFL.
L'École polytechnique fédérale de Lausanne, une pépinière de scientifiques de haut niveau. Dans ce pavillon, 24 heures sur 24, les neurones des chercheurs et de leurs robots sont en pleine activité. Car c'est ici que les savants conçoivent des machines dont l'intelligence est capable d'évoluer. Dans cet univers du 21e siècle, l'intelligence artificielle est inspirée du vivant et l'on met au point des robots surprenants.
Il est capable de se déplacer dans cette pièce tout en évitant les obstacles. Donc il voit les parois, il sait juger la distance et les éviter. Nous sommes inspirés de la mouche, et plus en particulier du système visuel de la mouche, qu'elle est très efficace pour se déplacer dans des environnements très différents. Donc ici nous avons l'œil de la mouche artificielle, si vous voulez.
Est-ce que la mouche a une intelligence plus aiguë que celle d'un autre insecte?
Peut-être pas une intelligence plus aiguë, mais une intelligence très efficace, c'est-à-dire qu'elle utilise très peu de neurones pour éviter des obstacles assez vite très différents. Alors l'intelligence de ces robots est placée ici. C'est à l'intérieur de cette housse électronique que nous avons des systèmes qui sont inspirés des neurones biologiques et de la génomique aussi.
Le génome naturel est un code génétique exprimé sous forme chimique. Le génome artificiel s'en inspire en combinant cette fois les chiffres 0 et 1. Le génome artificiel et ses neurones artificiels déterminent l'intelligence d'un robot.
Que cherchez-vous en créant des robots dont l'intelligence évolue toute seule?
Tout d'abord, il faut définir qu'est-ce que c'est l'intelligence, ce qui est très difficile. Pour moi, l'intelligence, c'est la capacité de donner des solutions à des problèmes. Alors, nous avons deux façons pour créer de l'intelligence artificielle dans des machines. Une façon consiste dans programmer ces robots de façon telle qu'ils accomplissent une tâche donnée. L'autre façon, ce que nous faisons dans ces laboratoires, c'est donner à ces robots la possibilité d'apprendre, de s'adapter, développer eux-mêmes des solutions à des problèmes donnés.
Pour arriver à ce résultat, il a fallu passer par de nombreuses étapes.
Absolument. Plus précisément, c'est le robot lui-même qui est passé à travers plusieurs étapes. Ces étapes, on les appelle des générations, c'est-à-dire que son intelligence artificielle a évolué pendant plusieurs générations, en fait des heures, toute seule, pour arriver à développer un système de navigation assez efficace. Nous trouvons, par exemple, dans les premières générations, des robots qui tournent tout au rond d'eux-mêmes. Si vous voulez, c'est très similaire à ce que la mouche fait quand elle est très proche d'une source de lumière assez forte. Et pendant plusieurs générations, ils deviennent de plus en plus efficaces. Après une trentaine de générations, nous trouvons des robots qui sont capables de se déplacer dans cette pièce sans toucher les parois.
Vous appartenez à un milieu familial d'enseignants et très jeune, vous avez appris à vous poser des questions fondamentales.
Oui, je me rappelle en famille, quand on était à la table, déjà on était assez petits, 10 ans, et mes parents discutaient des problèmes reliés à l'école ou des problèmes philosophiques. Et je crois que ça nous a marqués tous, en fait. Et donc la chose naturelle, c'était quand il fallait choisir l'université, j'avais me penché sur quoi? C'est sur l'intelligence, sur les cerveaux. Mon intérêt, qui est l'intérêt que j'ai aujourd'hui aussi, c'est comprendre quel est le mécanisme qui... Quels sont les mécanismes, donc à niveau neurophysiologique, à niveau presque de matière, si vous voulez, qui nous permet de s'adapter, de se comporter, de trouver des solutions, d'être créatives comme nous le sommes nous-mêmes.
Vous avez été fasciné par les nouvelles technologies?
Oui. Quand j'ai terminé mes études, j'étais un peu déçu finalement de la qualité des modèles ou des explications qu'on pouvait donner à l'intelligence humaine, si on veut. Et c'était une époque dans laquelle les ordinateurs commençaient à entrer dans les bureaux, dans les maisons. Et comme j'ai découvert l'informatique, je me suis dit, voilà, c'est l'instrument idéal dans lequel on peut tester ces modèles et les rendre plus concrets.
Et quel est votre rêve de scientifique?
Donc, il y a deux rêves. Il y a le rêve des scientifiques qui est de comprendre comment le cerveau des animaux, des insectes, des humains marchent. Et de l'autre côté, il y a un rêve d'enfant qui me pousse, qui me motive chaque jour que j'arrive au bureau. Et c'est, ce rêve, c'est le rêve d'avoir des machines qui sont capables de développer eux-mêmes des capacités qui nous surprennent.
Comment vous expliquez-vous les origines de la vie?
Je crois que les origines de la vie sont explicables avec les lois de la physique. C'est-à-dire qu'il y avait, dans cette Terre, dans cette planète, il y avait une certaine circonstance dans laquelle certaines substances chimiques se sont trouvées ensemble, elles ont donné lieu à une nouvelle substance qui pouvait s'autorépliquer. Donc l'autoréproduction de la matière était la clé.
Donc vous avez une approche scientifique, mais vous ne croyez pas à un dieu ou une transcendance qui aurait pu créer la vie?
C'est une question assez difficile, dans le sens que oui, je crois que la vie, on peut l'expliquer sans recourir à un Dieu, si on veut. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et peut-être que les lois de la physique même donnent lieu à des phénomènes qui vont delà de ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans mon intimité, quelquefois, je pars moi-même à une chose qui n'existe pas ici. Mais je ne crois pas dans un dieu dans les sens traditionnels du terme.
Par hasard, vous ne seriez pas tenté de créer un jour un robot humain dont l'intelligence évoluerait toute seule, un peu comme un homme?
C'est pas ça, mon rêve. Mais c'est clair qu'il y a des scientifiques qui appartiennent à mon communauté, donc avec lesquels on partage beaucoup des principes, qui sont intéressés à développer des robots humanoïdes adaptatifs, avec une intelligence adaptative. Eh bien, je crois qu'on est assez loin de ça. Aujourd'hui, on peut voir déjà des robots humanoïdes qui sont capables de se déplacer, de faire des choses. Mais à mon avis, ils sont comme des marionnettes. On est beaucoup plus avancé dans la technologie matérielle que dans la technologie de l'intelligence artificielle. Donc je crois qu'il faut faire assez attention quand on voit ces robots humanoïdes. Il y aura encore plusieurs centaines d'années, à mon avis, je crois, avant qu'on puisse avoir une intelligence qui est similaire ou proche à celle d'un homme dans ces robots. Salut André.
Salut Dario.
Ça va? Tu vois déjà beaucoup de petites pièces.
Ça avance.
Ciao Francesco.
Ciao.
Ça va? 6 déjà.
Ouais.
Très bien, très bien.
Alors on est en train de... Ben André est en train de monter les jauges. Et puis moi j'ai fait un tout petit peu les pinces de l'autre côté.
Donc les pinces, les petites pinces sont
ça, c'est
déjà
les pinces
prêtes,
mobiles. Hein. Ouais. Donc c'est celles qui viennent au bout du bras mobile.
Ouais.
Et puis là,
nous sommes ici dans l'atelier où nous construisons les robots, en particulier un des derniers robots inspiré des fourmis. Alors pourquoi un robot inspiré des fourmis? Parce que les fourmis sont des insectes assez spéciaux. Au contraire des mouches ou d'autres insectes, ils sont des insectes qui vivent en colonie. Donc ils sont capables de coopérer entre eux. L'idée c'est ici, c'est d'avoir beaucoup de robots qui sont relativement ensemble, chacun est relativement ensemble, mais qui peuvent s'aider les uns avec les autres. Alors imaginez par exemple un scénario de catastrophe dans lequel il faut aller repérer des personnes ou trouver des objets, etc. À la place d'envoyer un robot très complexe, seul, qui pourrait se casser et rester dedans, on envoie, imaginez, une colonie de robots qui s'aident les uns avec les autres. Si quelques robots tombent en panne, pas de problème, il y a les autres qui peuvent continuer à s'aider et accomplir la tâche entière. C'est un peu comme les fourmis, en fait, si vous voulez. Ce qui compte est la colonie elle-même. Les individus ne sont pas très importants. Comme les fourmis, ces robots-là sont capables d'attraper une autre fourmi ou un autre robot fourmi et de les soulever, par exemple. Un autre aspect, c'est ces bras mobiles qui correspondent à la patte de la fourmi. Les fourmis sont capables de s'attraper les unes avec les autres et former des structures assez complexes, comme des ponts, par exemple. Encore une chose assez particulière pour les fourmis, c'est la possibilité de communiquer entre eux. Ces robots-là utilisent cet anneau-là pour changer de couleur. Et la couleur peut être utilisée par chaque robot pour communiquer des états particuliers, comme le fait qu'il y a beaucoup de nourriture dans un certain endroit.
Est-ce que vous ne craignez pas que ces robots fourmis deviennent un jour incontrôlables ou imprévisibles ?
Cette réponse est difficile. Il y a deux côtés. D'un côté, j'espère qu'ils deviennent imprévisibles. Parce que s'ils sont prévisibles, ça ne nous amène pas beaucoup plus d'un robot qui est préprogrammé pour accomplir une tâche donnée. De l'autre côté, ils ne peuvent pas être trop imprévisibles, dans le sens que ce sont des robots qui ont été construits pour étudier une tâche spécifique et des comportements spécifiques. Donc il y a un certain limite.
Quelle est la différence entre l'intelligence de l'homme et celle de l'insecte?
Il y a plusieurs différences, mais une différence assez importante, c'est le fait que les insectes sont des animaux réactifs. C'est-à-dire qu'ils font toujours la même chose s'ils sont posés dans les mêmes conditions. Par contre, les hommes sont capables de se créer des représentations de l'environnement, de faire des prévisions pour le futur. Ils ont de l'intuition, ils ont de la créativité. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas du tout dans les insectes. Nous envisageons d'utiliser certaines des technologies qui sortent de cette recherche pour améliorer ou pour aider Bertrand Piccard à piloter son avion Solar Impulse. Solar Impulse sera un avion assez différent de tout ce qui existe aujourd'hui, avec beaucoup de facteurs que le pilote devra contrôler. Alors nous pensons d'utiliser cette intelligence adaptative pour prévoir ce qui va se passer pendant que le pilote est en train d'accomplir sa mission et donner des suggestions au pilote lui-même. Par exemple, on peut imaginer le fait que le pilote doit se reposer pendant cette longue mission et donc la machine pourrait détecter quand le pilote est en train de s'endormir et le réveiller si c'est nécessaire. Donc la machine doit prévoir s'il y a des conditions particulières qui demandent l'attention du pilote.
Et l'homme, Bertrand Piccard, aura aussi une interaction sur la machine ?
Oui, ce qu'on aimerait faire ou étudier comme possibilité, c'est que les pilotes aussi puissent sentir la machine.
C'est un exemple de complémentarité entre la machine et l'homme.
Absolument. C'est un exemple de complémentarité adaptative. Donc il y aura une intelligence artificielle adaptative qui sera répartie à la fois sur le corps de Bertrand Piccard et sur le corps de la machine.
Est-ce que ces nouvelles technologies représentent un danger pour l'homme ?
Les technologies ne représentent pas un danger. C'est l'utilisation qu'on fait qui peut représenter un danger. Personnellement, je suis contraire, par exemple, à toute l'utilisation de ce que nous faisons dans les laboratoires pour désarmer. Et nous avons déjà refusé des possibilités d'avoir des contrats. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'endroits dans lesquels des laboratoires pour l'armée qui travaillent sur des technologies très similaires à celles que nous étudions ici.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut interdire quand même certaines recherches ?
Je crois le contraire. Je crois que si on interdit certaines recherches, et si la technologie est là et ça nous permet de les faire, ça va être fait de toute façon, mais de façon secrète. Je pense donc qu'il faudrait encourager ces recherches, ou disons les financer, parce que la façon dans laquelle la recherche est faite, la façon dans laquelle les scientifiques travaillent, est ouverte. Donc nous sommes ouverts au débat et nous sommes là pour montrer ces idées.
Est-ce que la machine pourra dominer l'homme un jour ?
Non, je ne crois pas. Parce que même si ces robots étaient capables de s'évoluer complètement de façon autonome comme les êtres vivants, il y a beaucoup plus d'autres possibilités que de se mettre en compétition avec l'homme. Au contraire, je dirais même que s'ils sont intelligents, ils vont se cacher bien loin de l'homme.
Est-ce que vous n'êtes pas un savant avec une âme d'enfant qui rêve d'être un créateur ?
Il faut voir que le but principal ici, c'est de mieux comprendre comment la vie et l'intelligence se sont développées dans les temps. Et aussi créer des nouvelles technologies qui ont des caractéristiques d'adaptivité, par exemple d'apprentissage. Mais c'est vrai que finalement, au fond de moi, il y a un rêve, c'est un rêve d'enfance, c'est de créer des machines vivantes qui pourront se reproduire et nous surprendre.
Il y a sans doute une chose que vous, les scientifiques, n'arriverez jamais à faire dans cette course aux nouvelles technologies, c'est de mettre une âme dans un robot.
Qu'est-ce que c'est une âme ?
Thank you.